lourde des deux côtés. Et puis en France, le patron des députés socialistes Jean-Marc Ayrault demande au gouvernement d'abandonner définitivement les mesures de la loi LOPSI 2 censurées par le Conseil constitutionnel. Bertrand Rochette, l'un des trois cadres licenciés de Renault pour espionnage présumé, exige d'obtenir le texte de la plainte du constructeur automobile. Ses avocats ont adressé une sommation interpellative à Nicolas Sarkozy et au garde des Sceaux en ce sens.
La Russie doit être sans Poutine. Russie sans Poutine.
Nous autres. Zoé Varier.
Moscou, janvier 2011. Racisme, xénophobie, opposition réprimée, journaliste tabassé, assassiné.
Mais on vit pas dans un pays démocratique. Donc pour nous, c'est normal.
Nous autres,
une série d'émissions exceptionnelles,
ce soir,
à Moscou,
à partir de 20h.
France Inter et la Maison des Arts de Créteil présentent jusqu'au 20 mars le Festival Exit. Une immersion au cœur des arts numériques, avec l'exposition Paranoïa, une invitation faite à Jean-Charles de Castelbajac et Nouvelle Vague. Ivo Vanov, Hiroaki Umeda, Wen McGregor, Trash Scheib jalonnent ces 10 jours de fête spécialement dédiés à la création. Découvrez le festival Exit dans Alternative, samedi 19 mars à 22h05 et sur franceinter.com. France Inter.
La différence.
15h05 sur France Inter, je vous laisse avec Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Bonjour les Japonais. Un petit message, n'ayez crainte. Sarkozy va enfiler sa cape, il arrive, c'est bon. Et en plus, avant de l'enfiler, il a voté une loi anti-séisme et anti-tsunami. Donc, tout va bien.
Ce matin aux nouvelles, énorme tremblement de terre au Japon. À l'heure où je parle, on n'a pas encore de bilan humain, mais on a déjà des bilans financiers. Le yen et le Nikkei chutent. Ça veut dire que, au petit jour, dès l'annonce de la catastrophe, des gens se sont dit « Oh là là, vite, vendons, sinon on va perdre plein de sous. » Bon réflexe, vous ne trouvez pas? C'était Nadine de Lyon.
Alors, à propos de la Libye, voilà donc que BHL devient organisateur de la politique étrangère de la France. On se souvient qu'il y a quelque temps, Bernard-Henri Lévy avait essayé d'imposer en France le discours d'une jeune femme venue des Pays-Bas, accusatrice implacable de l'islam. Et on a appris en fait qu'elle était un sous-marin des néoconservateurs américains. Elle vit aujourd'hui aux États-Unis d'ailleurs. BHL est très impliquée dans ce qui se passe entre Proche-Orient et Israël. D'un autre côté, Nicolas Sarkozy a à se faire pardonner d'avoir reçu Kadhafi en grande pompe et d'avoir tardé à réagir par rapport au mouvement de libération tunisien. Vous faites se rencontrer ces deux positions de BHL et de Nicolas Sarkozy et vous obtenez quelque chose d'explosif. On se demande quand même où est l'intérêt de la France et des Français là-dedans. Faire respecter les droits de l'homme, mon œil. Il s'agit plutôt d'installer en Libye des hommes à la solde des Occidentaux. Et ce serait plus honnête de le dire, parce que les Libyens, eux, les Libyens vraiment anti-Kadhafi, eh bien, ils ne tarderont pas à dénoncer la manœuvre.
Jean Ferrat, je prononce ton nom avec un grand respect. Moi qui suis si peu respectueuse de l'ordre établi. Tu nous as permis de nous élever, encore et toujours. Dis-leur pour nous, Daniel Mermet, merci à toi et à ton équipe. Merci, Daniel Mermet, de parler pour nous. Et que nous saluions tous notre ami Jean Ferrat. Merci.
Oui, mais ça, c'est un message de l'année dernière. Vous avez peut-être tout de suite repéré, si vous avez l'oreille fine, il y a une émotion, il y a quelque chose qui fait que c'était l'année dernière. C'était juste il y a un an, 13 mars 2010, mort de Jean Ferrat, et une énorme et étonnante, surprenante et très profonde émotion et aussi émission, oui, à travers le pays. Émission, ben c'était la nôtre qui vous avait beaucoup remué à l'époque. On s'est dit, on va rendre hommage, ah oui, à un an déjà, Jean Ferrat. Et puis on a réécouté l'émission de l'an passé et à quelque chose près, quelques petites quelques petits détails, quelques petits mixages, quelques petits effets de réalisation près, on a préféré revenir à celle de l'an passé. Il y a quelque chose, comme ce que vous venez d'entendre dans ce message, qui fait que c'était à ce moment-là. C'était à ce moment-là que, voilà, ça s'est produit, cette surprise. On peut dire une surprise pour beaucoup, parce que Ferra était complètement oublié de beaucoup, ringardisé là-bas dans son Ardèche, même si très peu de temps après sa disparition, le dernier disque la compilation qu'il avait sorti avait été classée parmi les meilleures ventes. Mais peu importe, il n'était plus sorti des radars médiatiques, ce qui ne veut pas dire du tout qu'on n'existe pas, et ce qui voulait pas dire non plus qu'il avait disparu, car évidemment il n'a pas disparu. Ferra, un an après. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, c'est Nathalie de Corbigny. Alors, je fais partie d'une association de parents d'élèves qui sont mécontents. On occupe en ce moment même l'école primaire et la ville de Corbigny dans la Nièvre. Il y a une suppression prévue de 2 postes d'enseignants à la rentrée 2011, donc avec évidemment un effectif dans les classes qui n'est pas acceptable. Nous, on dit que c'est à l'État et aux représentants qu'on a élu de veiller au bon déroulement de l'éducation, enfin surtout de l'instruction de nos enfants. Daniel, je sais que tu as des attaches dans la Nièvre. On aimerait bien que tu viennes à notre rencontre pour en parler et qu'on parle aussi de ces primes que vont toucher les recteurs d'académie pour leurs bons objectifs atteints de fermeture d'école. Salut Daniel, à très bientôt, au revoir.
Salut Daniel et toute l'équipe. Ben voilà, c'est mon tour. C'était en 1984 et ça se passe à Bourg-Saint-Maurice au mois de juillet. Moi je venais de ma Lorraine natale, mes parents m'avaient donné 50 francs. On faisait un camp de marche dans la région. J'avais 50 balles pour les 3 semaines d'argent de poche. Puis j'avais voulu garder ces 50 balles pour leur ramener une bouteille de vin du coin et puis un morceau de Beaufort. Puis on crevait la dalle quand même des fois et on est allé à l'Intermarché. Et puis comme je voulais garder mes 50 balles, on a volé un Mars. J'ai shooté dans les espèces de présentoirs là qui étaient près de la caisse. Le copain qui était déjà passé de l'autre côté de la caisse sans achat, il s'est accroupi pour refaire son lacet et puis il a récupéré le Mars à l'autre bout et on a volé un Mars, quoi. 2,30 francs. Alors, aujourd'hui, 7 mars 2011, je veux adresser mes excuses solennellement à la caissière de l'Intermarché de Bourg-Saint-Maurice, parce qu'il y avait un trou de 2,30 francs dans la caisse. J'espère que mon repentir, il est sincère, c'est sûr, mais j'espère qu'il n'est pas trop tardif. Enfin, le pote, c'était pas Gérard Longuet, pas Édouard Balladur, et ni Alain Juppé, hein, celui qui a ramassé le Mars. De toute façon, moi, je suis pas Jacques Chirac, alors. Salut.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais. C'est un joli nom qui marie cerise et grenade. Tu es parti, tu étais ma France, celle des ouvriers, des travailleurs, des gens de gauche. Au revoir, Jean. Pascal d'Orange.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade au sang fleur du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme au bal, les lèvres s'épanouissaient. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire. Quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade, c'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais. Dans mon cœur battant la chamade pour qu'il revive à jamais. Ce mari, cerise et grenade au sang fleur du mois de mai.
Les enfants des Trente Glorieuses connaissent ces quelques notes de musique derrière ma voix. Les enfants des Trente Glorieuses ont tous un bout de ferrat dans le cœur. Les enfants des Trente Glorieuses, c'était leur France. Une quatrelle, une gauloise, un autoradio fixé avec des élastiques sur la Nationale 7. Et on roule vers les lavandes, et on roule vers le camping des Pinèdes, et on reprend ferrat en cœur. La montagne est belle, les vieux sont au pouvoir, De Gaulle et le parti. On dit pas le parti communiste à ce moment-là, on dit le parti. Il n'y a pas que ferrat, bien sûr. Il y a Brassens aussi. Il y a Brel, il y a Ferré, mais pas tellement dans l'autoradio. Cela, c'est sur le Tépaz que tournent les 45 tours. Federico Garcia Lorca, ma môme, c'est la guerre froide et le plein emploi. Que serais-je sans toi? Et le soir, sous la tente, au bout d'une rallonge volée, branchée sur un fil des toilettes du camping, deux enfants au soleil. Toute une génération, toute une France connaît son ferrat par cœur. Et pourtant, ferrat s'était retiré, dit-on. Il s'était retiré, il avait rompu avec le monde du showbiz, avec la télé, tout ça. Il avait gagné assez d'argent, il faut dire. Il avait, jusqu'en 1975, fait toute une série de tubes qui lui avaient permis de se planquer dans son Ardèche. Depuis, en vérité, il n'avait pas cessé de travailler, de créer, d'écrire et d'enregistrer. Tout ça avec du succès. Et tout ça avec du succès. Une très grande popularité. Ah, si seulement! Si seulement il n'avait pas eu ce succès. Si seulement il n'était pas resté aussi populaire comme ils auraient aimé, comme les autres, le marginaliser, le faire disparaître et le gommer de la photo. Seulement, voilà. Ferrat est resté populaire jusqu'au bout. Pourquoi est-il resté populaire, ce communiste, comment peut-on faire pour avoir autant de sympathie pour le Parti communiste et rester aussi populaire? Alors on dit, oh mais il n'était pas vraiment au Parti communiste. C'est pas ça les gars. C'est que Ferrat était sincère, c'est tout. Ferrat était sincère. Et c'est comme ça qu'il a réussi à toucher profondément cette France, le cœur de cette France, et pas seulement de ma France, comme il disait, mais de tous. Et c'est un assez extraordinaire exploit pour qu'on le fête aujourd'hui. Oui, un hommage dans la basse, j'y suis jusqu'à 16h. Jean Ferrat.
Maman, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt. Elle et toi, on va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux. Quoi qu'on dise, l'été, quand la ville s'en sommeille, chez nous y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine. On dirait, on regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour des magazines, elle travaille en usine à Créteil.
En fait, la grande révélation pour moi et ce qui m'a donné le plus de confiance en moi-même et dans les autres.
France Culture.
Ça a été à propos d'une chanson.
13 avril 1970.
Qui a obtenu un accueil vraiment très important et qui m'a beaucoup étonné moi-même parce que je n'osais pas l'espérer. Je veux parler d'une chanson qui s'appelle Nuit brouillard. Ça a été vraiment la chose qui a déterminé vraiment, je crois profondément, mon orientation ultérieure.
Et c'est là aussi où tu as pensé que la chanson pouvait devenir le support de ce qu'on appelle pompeusement une idéologie.
Je crois que j'avais cette idée profondément ancrée en moi, que j'en étais persuadé, mais que jusqu'à présent je n'en avais pas fait la preuve face à toutes les difficultés qu'on peut avoir, en particulier la censure et la diffusion aussi.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez.
Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.
À l'époque, la chanson a eu le succès que Ferrat vient d'indiquer, et elle a fait l'objet aussi de pression, voire même de censure. À plusieurs moments de sa carrière, Ferrat a fait l'objet de censure, de pression et d'interdiction. Mais cette chanson a eu un sujet d'un deuxième étonnement en 2005, dans une revue qui s'appelle L'Arche. Quelqu'un a cru voir dans cette chanson la possibilité d'un texte négationniste, d'un négationnisme implicite. C'est un certain Meyer Van Trater, qui est un des rédacteurs de ce magazine, L'Arche, qui accusait donc l'auteur de cette chanson de négationnisme implicite. Et à l'époque, Jean Ferrat avait été particulièrement blessé d'un tel soupçon, d'une telle accusation, avait répondu d'une manière très violente à l'auteur de ces lignes. Il regrettait que dans ce texte, n'apparaissent pas d'autres victimes des nazis comme les handicapés, les homosexuels, les tziganes, etc.
Bonjour Daniel, c'est Liliane dans le Val-de-Marne. Je ne sais pas si toi, dans le cadre de ton émission, tu peux rendre un hommage à Jean Ferrat. Il y a des gens de tous les âges qui écoutent ton émission et je trouve ça formidable. Et peut-être que beaucoup, justement, ne le connaissent pas quand il fustigeait certaines chansons bien commerciales. Effectivement, il avait bien raison et depuis bien longtemps. Et pour avoir regardé l'autre fois la télévision avec certains chanteurs, faut déjà comprendre leur texte. Or, Jean Ferrat avait effectivement, ne serait-ce que les poèmes d'Aragon mis en musique, c'était une merveille. Et j'ai évidemment beaucoup de souvenirs pour lui, beaucoup d'émotions. En 63, mon papa est parti, j'étais jeune. Et j'écoutais Jean Ferrat en boucle. Et c'était vraiment des beaux souvenirs. Enfin voilà, ça faisait partie de ces gens qui, quand même, sans être passéistes, c'était de la chanson, c'était pas vraiment certains navets qu'on peut entendre à longueur de journée. Voilà, et ben si des fois tu faisais cette émission-là, ça serait génial pour que peut-être plein de plus jeunes redécouvrent Ferrat et fassent la différence entre les navets et les gens qui savent chanter des beaux textes, peu importe qu'ils soient des poèmes ou des choses comme Potemkin et Nuit et brouillard. Même là, je viens de l'entendre, j'en ai encore la chair de poule. Voilà, ben, merci Daniel et puis bravo à Ferrat. Au revoir.
Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme on passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre?
Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes? N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste? Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêté au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement?
Et puis ce fut mai 68. Et puis ce fut mai 68. Et mai 68, ce fut l'impossible... L'impossible rencontre, l'impossible unité entre le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier. Dans les mémoires, d'ailleurs, l'image qu'on a de mai 68, c'est la Sorbonne, c'est l'Odéon, c'est les jeunes sur les barricades. On oublie que mai 68 a été d'abord un mouvement ouvrier énorme et les plus grandes grèves et la plus grande mobilisation ouvrière de l'histoire sociale française. Et à cette époque-là, Ferrat est du côté, évidemment, du Parti communiste. Encore une fois, il faut rappeler qu'il n'a jamais eu sa carte au parti, mais il en est à l'époque très proche et il commet cette chanson qui déplaira beaucoup à certains.
Parle de vous sans cesse, de vos opinions. Vos voitures, vos maîtresses, vos clubs en renom. Vous avez pour vous la presse, la télévision. Vous vous dites la jeunesse, pauvre petit. Vous vous dites la jeunesse, pauvre petit. Bourgeois ordinaire, fils de Dieu sait qui. Vous mettez les pieds sur terre, tout vous est acquis. Surtout le droit de vous taire pour parler au nom de la jeunesse ouvrière, pauvre petit. De la jeunesse ouvrière, pauvre petit. De vos colères, quand vos contorsions ne seront plus qu'éphémères et vieilles illusions. Fils de bourgeois ordinaire, pour qui nous savons, vous voterez comme vos pères, pauvres petits. Vous voterez comme vos pères, pauvres petits. Si votre papa fait mine de couper les fonds, si vos petites combines ne tournent plus rond, si votre moi vous chagrine plus que de raison, il y a des places en usine, pauvre petit. Il y a des places en usine, pauvre petit.
Chanson célébrissime à l'époque, une beaucoup moins connue, 1991, un quart de siècle après, Jean Ferrat remet ça. Avait-il tort ou bien raison ?
Ils ont troqué leur col marron contre un joli costume trois pièces. Ils ont troqué leurs idéaux contre un petit attaché-caisse, citoyen de Paris, ma ville. La plage est loin sous les pavés, vivez en paix, dormez tranquille. Le monde n'est plus à changer. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, et voilà vieux con. Ils ont troqué leur col maho pour une tenue plus libérale. Le vieux slogan du père Guizot est devenu leur idéal. Nos 68 arts en colère reprennent un refrain un peu banal. C'est enrichissez-vous, mes frères, en guise d'international. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, les voilà vieux. Ils ont troqué leur col maro et leur vieux look égalitaire pour un costume plus rigolo. C'est la chasse du blin humanitaire. Ils font la quête avec délice chez ceux qui n'ont plus rien à donner. Et pour établir la justice, s'en remettre à la charité. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, et les voilà vieux cons. Ils ont troqué leur col maro pour des tenues plus officielles. Depuis qu'ils fréquentent à gogo les cabinets ministériels. Ah, quel plaisir en redingote sur le perron de l'Élysée, de se faire lécher les bottes par des journalistes avisés. C'est toujours avec les jeunes imbéciles, qu'on le veuille ou non. C'est toujours avec les jeunes imbéciles qu'on fait les vieux.
Lorsque j'avais 16 ou 17 ans en 80, j'écoutais Jean Ferrat. Je n'écoutais quasiment que lui. Je ressentais comme une communion de pensées avec ses textes, ceux qu'il a écrits, comme ceux qu'il a interprétés. L'espoir d'un monde meilleur m'habitait. J'y croyais comme l'alouette au miroir. Mais j'y crois toujours, même si cela n'est pas facile. En tout cas, il a accompagné ma jeunesse, et je m'en rends compte à présent, a beaucoup influencé ce que je suis devenu, ma sensibilité, mon envie toujours de me retrouver aux côtés des opprimés, contre toute forme de pouvoir tyrannique, financier, moral ou autre, mais aussi cette capacité poétique et romantique de s'émouvoir des choses et de sentiments les plus simples, cette volonté d'humanisme, d'humanité, de fraternité, tout en résistant. Alors bien sûr, ça m'a fait mal, ça me fait toujours mal, les yeux me piquaient, puis j'ai pensé à l'embellie, qui est une beauté absolue, puis j'ai pensé à la conclusion du bilan, qui est un cri, une révolte, et le point de commencement d'un nouveau monde. C'est à notre avenir qu'il faut qu'on réinvente, sans idole ou modèle, pas à pas humblement, sans vérité tracée, sans lendemain qui chante, un bonheur inventé définitivement. Un avenir naissant d'un peu moins de souffrance, avec nos yeux ouverts en grand sur le réel, un avenir conduit par notre vigilance envers tous les pouvoirs de la terre et du ciel. Alors l'espoir est revenu.
Ah, ils nous en ont fait avaler des couleuvres, de Prague à Budapest, de Sofia à Moscou, les staliniens zélés qui mettaient tout en œuvre pour vous faire signer les aveux les plus fous. Vous aviez combattu partout la bête immonde, des brigades d'Espagne à celles des maquis. Votre jeunesse était l'histoire de ce monde. Vous aviez nos Kostov, Poulandon ou Slansky. Au nom de l'idéal qui vous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. Ah, ils nous en ont fait applaudir des injures, des complots déjoués, des dénonciations, des traîtres démasqués, des procès sans bavure, des bagnes mérités, des justes pendaisons. Ah, comme on y a cru, aux déviationnistes, aux savants décadents, aux écrivains espions, aux sionistes bourgeois, aux renégatitistes, aux calomniateurs de la révolution. Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. Ah, ils nous en ont fait approuver des massacres que certains continuent d'appeler des erreurs. Une erreur, c'est facile, comme un et deux font quatre, pour barrer d'un seul trait des années de terreur. Ce socialisme était une caricature. Si les temps ont changé, des ombres sont restées. J'en garde au fond du cœur la sombre meurtrissure, dans ma bouche à jamais la soif de vérité. Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. Mais quand j'entends parler le bilan positif, je ne peux m'empêcher de penser à quel prix. Et ces millions de morts qui forment le passif, c'est à eux qu'il faudrait demander de ravir. N'exigez pas de moi une âme de comptable pour chanter au présent ce siècle tragédie. Les acquis proposés comme dessous de table, les cadavres passés en pertes et profits. Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. C'est un autre avenir qu'il faut qu'on réinvente, sans idole ou modèle, pas à pas, humblement, sans vérité tracée, sans lendemain qui chante un bonheur inventé définitivement. Un avenir naissant d'un peu moins de souffrance, avec nos yeux ouverts en grand sur le réel, un avenir conduit par notre vigilance envers tous les pouvoirs de la terre et du ciel. Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui.
Le bilan, c'est en 1980, après que Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste, ait considéré que le bilan du communisme était globalement positif. Voilà, c'est nouveau cette chanson de Jean Ferrat qui découvre les abus du stalinisme 60 ans après Victor Serge, mais enfin qui le découvre et qui le dénonce. Non pas qu'il renonce cet idéal qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. J'entends beaucoup de gens dire « oui, il a renoncé ». Non, il n'a pas renoncé, il a compris à un moment. Les œillères sont tombées, il n'était pas le seul d'ailleurs à cette époque-là. On continue avec vos messages très très nombreux qu'on a reçus, cet hommage à Jean Ferrat.
Jean Ferrat, je prononce ton nom avec un grand respect. Moi qui suis si peu respectueuse de l'ordre établi. Tu nous as permis de nous élever encore et toujours. Dis-leur pour nous, Daniel Mermet, merci à toi et à ton équipe. Merci, Daniel Mermet. de parler pour nous. Et que nous saluions tous notre ami Jean Ferrat. Merci.
Les guerres du mensonge, les guerres coloniales, c'est vous et vos pareils qui en êtes tuteurs. Quand vous les approuviez à longueur de journal, votre plume signait 30 années de malheur. La terre n'aime pas le sang ni les ordures, Agrippa d'Aubigné le disait en son temps. Votre cause déjà sentait la pourriture, et c'est ce fumet-là que vous trouvez plaisant. Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saïgon. Avant que cette ville s'appelle ville chimie. Allongés sur les rails, nous arrêtions les trains. Pour vous et vos pareils, nous étions la vermine sur qui vos policiers pouvaient taper sans frein. Mais les rues résonnaient de paix en Indochine. Nous disions que la guerre était perdue d'avance, et 100 000 Français allaient mourir en vain contre un peuple luttant pour son indépendance. Oui, vous avez un peu de ce sang sur les mains. Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer l'air de liberté flottait sur Saïgon. Avant que cette ville s'appelle ville chimine. Après 30 ans de feu, de souffrance et de larmes, des millions d'hectares de terre défoliées, un génocide vain perpétré au Vietnam. Quand le canon se tait, vous continuez. Mais regardez-vous donc un matin dans la glace, Patton du Figaro songez à Beaumarchais. Il saute de sa tombe en faisant la grimace. Les maîtres ont encore une âme de baleine.
Cette chanson est particulièrement violente. Jean d'Ormesson, vous avez du sang sur les mains, évidemment, n'a pas plu à tout le monde, à commencer par Jean d'Ormesson lui-même. C'était en 1975, et sur Antenne 2, Ferrat avait enregistré une émission, c'était dans le cadre d'une émission animée par Jacques Chancel, et il avait chanté cette chanson. Or, à la diffusion, la chanson avait disparu sous la pression de Jean d'Ormesson, patron à cette époque-là du Figaro, et la direction d'Antenne 2 avait plié devant cette pression, et la chanson avait été censurée. Que l'on sache, à l'époque, Jacques Chancel ne s'était pas franchement battu contre cette censure. Voilà un homme de combat, mais aussi un homme de tendresse.
Je l'aimais parce qu'il ne s'est jamais renié, a été constant dans ses convictions communistes. Égoïstement, je l'aimais parce qu'il a tellement bien chanté de moi, enfant du peuple. Je l'écoutais et ma pensée s'élevait vers un monde à construire encore et toujours. On ne se connaissait pas. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais il parlait à mon âme insoumise à jamais. Avez-vous remarqué que ces hommes-là, engagés, vieillissent bien? Ils ont une beauté préservée de la mesquinerie de la vie, une beauté lumineuse, une beauté d'homme vrai,
que les femmes aiment.
On m'a dit tes idées ne sont plus à la mode. Quand on veut gouverner, ce n'est pas si commode. Il faut évidemment s'adapter au terrain, mettre jour après jour un peu d'eau dans son vin. On m'a dit dans la jungle, il faut qu'on se débrouille. On est bien obligé d'avaler des magouilles, de laisser dans un coin les projets trop coûteux. On va pas tout rater pour des canards boiteux. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81.
La porte à droite.
Antenne 2, 2 novembre 1985.
Quatre couplets.
Bernard Pivot.
Deux premiers sont contre les socialistes. Le pouvoir socialiste.
Jean Ferrat.
A eu au début des bonnes initiatives. Il y avait un certain ton aussi dans les discours. Du président, des ministres, etc., qui changeaient. Ça me faisait plaisir d'écouter ces paroles qui parlaient de la justice, de la liberté, de la France. Il y avait un ton nouveau, c'était bien.
On m'a dit qu'il fallait prêcher et le sacrifice à ceux qui n'ont pas pu s'ouvrir un compte en Suisse. Qu'il fallait balayer tous nos vieux préjugés et que ceux qui travaillent étaient privilégiés. On m'a dit, tu comprends, tes idées archaïques ne feront qu'aggraver la crise économique. Ainsi la liberté dans un monde plus juste fait partie des slogans qui sont un peu vétustes. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81.
Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on vit toujours, malgré la gauche, malgré le pouvoir socialiste, dans un pays capitaliste, et qu'on ne peut pas à la fois ménager, n'est-ce pas, la chèvre capitaliste et le chou prolétarien. Il y en a un qui doit manger l'autre.
Oui, mais
et comme on n'a jamais vu de chou manger une chèvre, vous voyez ce que je veux dire.
En fait, pour vous, les socialistes, on vire à droite. Hein. Dans cette chanson, c'est évident.
C'est-à-dire que, oui, on peut appeler ça comme ça, ils ont subi la loi capitaliste. Hein. Et ça montre bien qu'il faut prendre des mesures plus efficaces, plus définitives avec le capital.
Puis d'autres sont venus, beaucoup moins présentables, qui parlaient de la France en tapant sur la table, qui disaient faut changer, c'est la loi du pendule, on va pour commencer supprimer la pilule. Ensuite il faudra bien flitoxer la vermine, rétablir la morale avec la guillotine. Et puis il n'y a qu'à virer les mauvais syndicats pour conserver celui qui plaît au patronat. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81.
Quatre couplets, les deux derniers sont contre la droite. Disons depuis la Révolution française, la droite, sur 200 ans, la droite a eu le pouvoir pendant sans doute 194. Alors, ça fait 4 ans qu'elle l'a plus, elle pousse des hurlements, elle glapit, oulala, ça fait mal depuis commander, ça fait mal depuis avoir le pouvoir. Un peu de décence, messieurs.
Ils ont dit qu'il fallait se montrer réaliste, qu'il y avait du bon dans les journaux racistes, qu'il fallait nettoyer ce cher et vieux pays, si l'on ne voulait pas qu'il devienne un gourbis. Dois-je vous l'avouer, ces propos me renversent quand je vais boire un verre au café du commerce. Parfois je crois revoir sur du papier jauni la photo de Pétain dans mon verre de Vichy. La porte du bonheur est une porte étroite. Qu'on ne me dise plus que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81. D'oublier nos folies d'avant 81.
Je sais pas parler au téléphone comme ça.
Je suis pas un intello, je suis pas, voilà, j'étais simplement ouvrière, comme il y en avait tant d'autres. Je suis amputée de cette mort de notre grand Jean Ferrat quand même. Et c'est difficile à passer ce cap parce qu'avec lui, il part tellement de choses. Tant et tant de choses aujourd'hui dans notre France où tout va mal quand même. Où nous avons des espérances, mais où c'est quand même si dur la vie. Entre les immigrés qu'on renvoie, les ouvriers qui sont pourchassés, cette jeunesse qui va mal, enfin tant et tant de choses. Je ne veux pas noircir le tableau. Mais c'est vrai qu'avec ce départ, moi je suis amputée de quelque chose. J'ai beaucoup de peine. Merci à toutes et à tous. Ben Mermé, continue, parce que tu sais, par les temps qui courent, ben on a besoin de toi. Merci Daniel. Au revoir.
J'ai souvent pensé, c'est loin la vieillesse, mais tout doucement la vieillesse vient, petit à petit, par délicatesse, pour ne pas froisser le vieux musicien. Si je suis trompé par sa politesse, si je crois parfois qu'elle est encore loin, je voudrais surtout qu'avant m'apparaisse ce dont je rêvais quand j'étais gamin. Ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Bien sûr, on dira que c'est des sottises, que mon utopie n'est plus de saison, que d'autres ont chanté le temps des cerises, mais qu'ils ont depuis changé d'opinion. Moi, si j'ai connu des années funestes et mes cerisiers des printemps pourris, je n'ai pas voulu retourner ma veste ni me résigner comme un homme aigri. Ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Tant que je pourrai traîner mes galoches, je fredonnerai cette chanson-là que j'aimais déjà quand j'étais gavroche, quand je traversais le temps des lilas, que d'autres que moi chantent pour des prunes. Moi je resterai fidèle à l'esprit qu'on a vu paraître avec la commune et qui souffle encore au cœur de Paris. À qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train.
Ferrat, un an déjà, merci à toutes et à tous. Une édition de ce jour, de l'Humanité, 11 mars, est consacrée, vous en doutez, à Jean Ferrat. Ferrat à la une de l'Humanité aujourd'hui. Pour réécouter toutes ses chansons, Barclay a édité en 2010 un coffret contenant 13 CD, tous les enregistrements originaux. qu'il possède. Et plus modestement, il y a un best-of comptant 57 de ses chansons les plus célèbres qui est sorti en octobre 2009. Ferra, donc, vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Et puis, il y a un bouquin qui est sorti il y a quelques mois déjà de Daniel Panchenko sur Jean Ferrat, la bio de Jean Ferrat, Je ne chante pas pour passer le temps, avec, un tout petit poème de Pablo Neruda. Vous me demanderez pourquoi votre poésie ne nous parle pas des rêves, des feuilles, des grands volcans de votre pays natal. Venez voir le sang dans les rues, venez voir le sang dans les rues, venez voir le sang dans les rues, Pablo Neruda. Merci à tous, à la technique aujourd'hui, Éric Morin et Thibaut Deschamps. Koy Nguyen et Franck Adherer ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Le Bot et Marina Touyez. Attends vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, réclame.
C'est encore moi. Pour vous dire que vendredi, Euromillions met en jeu une somme encore plus sonnante et trébuchante que la semaine dernière, près de 80 millions d'euros. 80 millions! Ça sonne bien, non?
Estimation non garantie des gains à partager au rang 1, voire règlement.
Euromillions! Il n'y a que Euromillions pour gagner autant de millions.
FTJ.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Inter, partenaire du Salon du Livre de Paris, Porte de Versailles, du 18 au 21 mars. Une édition 2011 riche et éclectique avec au programme les lettres nordiques, la littérature d'outre-mer, le roman noir et les livres en série. Retrouvez les émissions de France Inter en direct et en public du Salon. Renseignements sur franceinter.com.
16h et une poignée de secondes sur Inter. On se retrouve lundi à 15h pour la baisse. Si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut!
La nuit est tombée sur un Japon en plein chaos après le séisme de magnitude 8,9 qui a surtout touché le nord-est du pays. 200 à 300 corps ont été retrouvés sur une plage de Sendai sur la côte nord-est et on dénombre 88 morts dans différentes régions du Japon. Mais le bilan humain risque d'être bien plus lourd encore. Il y a 350 disparus. Sur le littoral, une vague de boue et de débris a déferlé à grande vitesse à travers les champs et les routes en dévastant tout sur son passage. À certains endroits, l'eau a pénétré jusqu'à 5 km à l'intérieur des terres. À Tokyo, la capitale, à 380 km de l'épicentre, les dégâts semblent plus limités. Le trafic aérien est en train de reprendre progressivement. En revanche, les transports ferroviaires et routiers sont toujours interrompus dans une grande partie de l'archipel et des millions de foyers sont privés d'électricité. C'est l'alerte aussi autour des centrales nucléaires. 6000 habitants qui vivent à proximité d'une centrale dans le nord-est du pays ont été évacués. Des militaires en tenue de protection nucléaire sont dépêchés sur les lieux. Le système de refroidissement du réacteur est en panne, mais selon le gouvernement, il n'y a pas de fuite radioactive. Le tsunami consécutif à ce séisme a touché l'Indonésie, mais sans faire de dégâts. Alerte levée également en Australie, Nouvelle-Zélande et à Taïwan. Les premières vagues ont frappé Hawaï, dont les zones côtières ont été évacuées. Et une partie de la côte ouest des États-Unis est en alerte. Les premières vagues devraient arriver d'ici une heure. En Californie, elles pourraient atteindre 2 mètres. En Polynésie française, c'est l'inquiétude pour les îles Marquises, où des vagues de 2 à 4 mètres de hauteur sont attendues. L'alerte a été déclenchée pour inciter les populations des zones exposées à gagner les hauteurs. En Nouvelle-Calédonie, les populations du littoral sur les îles Loyauté, sur la côte est de la Grande Terre, sont également invitées à quitter la côte. Enfin, quasiment tous les pays d'Amérique latine, riverains du Pacifique, ont émis des avis d'alerte. Au Chili, l'île de Pâques, qui est peuplée de 4000 habitants, pourrait être le premier territoire du pays touché vers 22h, heure de Paris. L'Équateur a décrété l'état d'exception et ordonné l'évacuation de tous les habitants du littoral du pays et de la province des Galapagos. Dossier spécial sur le séisme au Japon et sur le tsunami dans le Pacifique sur notre site internet à l'adresse franceinter.com. Dans le reste de l'actualité, la contestation dans le monde arabe, très vive aujourd'hui comme tous les vendredis, journée de prière et de repos dans les pays musulmans. En Libye, à Benghazi, le fief de l'opposition, plus de 10 000 personnes se sont rassemblées pour réclamer le départ du colonel Kadhafi. Les forces de l'ordre du régime libyen continuent de pilonner la ville de Ras Lanouf, où les insurgés résistent. Au sommet européen de Bruxelles, Bruxelles, Paris et Londres se déclarent favorables à des frappes ciblées, mais uniquement défensives, contre le régime de Muammar Kadhafi. Au Caire, des centaines d'Égyptiens qui tenaient à la main des croix et des Corans se sont rassemblés sur la place Tahrir pour dénoncer le sectarisme après des heurts entre chrétiens et musulmans qui avaient fait 13 morts. Et puis en Iran, le chef du bureau de l'agence France-Presse à Téhéran, Jedesh Mukh, a été expulsé. Les autorités iraniennes n'ont pas donné d'explication. L'actualité en France, Nicolas Sarkozy renvoie son conseiller en charge de la diversité, Abderrahmane Daman. Il avait sévèrement critiqué hier le débat sur la laïcité organisé par l'UMP et appelé les musulmans à ne pas renouveler leur adhésion au parti majoritaire tant que ce débat n'était pas annulé. La proposition de loi pour plus de transparence sur les sondages politiques qui avait été adoptée au Sénat, inscrite à l'agenda de la commission des lois de l'Assemblée. Le texte devrait donc être inscrit à l'ordre du jour dans les prochaines semaines. Et un mot de sport pour terminer. Le français Jason Lamy-Chappuis remporte la Coupe du Monde de combiné nordique pour la deuxième année consécutive grâce à sa troisième place dans l'avant-dernière épreuve de la saison à Lahti, en Finlande.
Des secrets à Studio Théâtre.
Sur France Inter.
Je dois dire, vous avez reconstruit un petit peu l'histoire, c'est très bien. C'est
un secret politique avec Adagio, Olivier Py, Mitterrand, Le secret et la mort.
Laure Adler.
J'ai interprété alors.
Oui, c'est très bien, non, mais j'aime bien ça.
La Célestine, Fernando de Rojas. Le secret d'une femme libre du 15e siècle.
Parce que,
Je me suis trop identifiée avec celle.
Mais où est donc le cadavre? Est-il dans sa chambre froide? Vous le saurez avec Joël Pommerat
ce soir sur France Inter
dans son spectacle Ma chambre froide
à partir de 23h.
France Inter, partenaire du 13e printemps des poètes sur le thème d'infinis paysages du 7 au 21 mars. Des milliers d'événements partout en France pour dire, écouter, lire la poésie et se faire passeur de poèmes. Rencontrez les poètes à Paris, Lyon, Bordeaux, Saumur, La Rochelle, Clermont-Ferrand, dans les Côtes d'Armor ou encore à Mayotte. Retrouvez le 13e printemps des poètes d'infinis paysages dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h05 sur France Inter, on retrouve Frédéric Lodéon et le Carrefour de Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Corinne. Carrefour de Lodéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. J'ai le très grand plaisir et le très grand honneur de recevoir aujourd'hui Michel Leeb. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors vous étiez avec nous pour les victoires de la musique classique, vous avez fait un grand effet bien sûr, et vous êtes présent aujourd'hui, bon on sait bien parce que votre spectacle est très connu, pour Ilharmonic Show, qui continue, parce que c'est un triomphe, donc il y a des prolongations, c'est exceptionnel, ça a déjà recommencé le 8 mars, c'est au Théâtre Comédia. Le Théâtre Comédia, c'est 4 boulevards de Strasbourg dans le 10e arrondissement, et on peut citer tout de suite les jours pour que les auditeurs préparent leur calepin. Mercredi, jeudi, vendredi, donc vous jouez ce soir et vous jouez puis demain aussi, 20h30 en matinée, le samedi et le dimanche parfois, enfin faut se renseigner bien sûr, et c'est à 16h30. Alors bon, tout le monde est au courant de cette tragédie au Japon et on vous connaît comme un acteur, un comédien, un grand fantaisiste, un amoureux du jazz, on sait quelques-uns, enfin moi je m'en souvenais mais j'ai demandé quand même confirmation que vous avez commencé une maîtrise de philosophie à la Sorbonne, que vous avez même enseigné cette matière à Bourg-la-Reine. Donc devant tous ces événements, bien sûr, on a envie de dire, mais est-ce qu'on peut rire encore? Évidemment, la réponse, je la connais. C'est-à-dire que si on ne rit pas, on meurt. C'est ce Japon frappé encore une fois. Et bon, ça ne vous empêche pas, évidemment, d'être un grand amoureux de la musique, de toutes les musiques. Ce pourquoi vous avez gentiment accepté de venir aujourd'hui.
Merci.
Alors, on va commencer par... Vous m'avez donné une liste d'œuvres que vous aimez beaucoup. Par exemple, le deuxième concerto de Rachmaninov. Alors, voilà, pourquoi? C'est une émotion d'enfance, de, je sais pas, cinématographique peut-être ou bien...
Pas du tout. Pas du tout, c'est parce que ma femme, Béatrice, était complètement raide dingue de ce concerto pour piano et elle me l'a fait découvrir. Je le connaissais pas.
C'est une histoire d'amour.
C'est exactement ça. Et... tout au début de notre relation, moi je lui faisais écouter Bill Evans, qui est un pianiste de jazz que vous connaissez bien sûr, et elle m'a fait découvrir Rachmaninov. Voilà, c'est un échange de bons procédés et de toute façon basé sur l'émotion évidemment.
C'est peut-être ça la plus belle pédagogie, c'est par l'amour tout simplement.
Ah bah bien sûr, bien sûr.
Alors j'ai choisi une version qui est admirable d'abord, il y a Christian Zimmerman au clavier, l'Orchestre Symphonique de Boston, et puis Seiji Ozawa, le chef japonais, donc je salue, parce qu'il souffre de pas mal de choses, c'est une bon. Opération récente, et en plus son pays a été frappé, comme on l'a entendu malheureusement ce matin. Voici le début, le premier mouvement de ce deuxième concerto de Rachmaninov.